Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Benoît-du-Lac qui évoque les figures de Sainte Perpétue et Sainte Félicité, deux jeunes femmes martyrisées en 203 à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Elles sont fêtées le 7 mars et citées dans la Litanie des Saints lors de la veillée pascale dans l'Église catholique. Pour l'anecdote, Perpétue, qui avait été encornée par une vache enragée, est curieusement invoquée pour la protection des troupeaux de bétail. Don Bolduc, bonjour.
Bonjour.
On arrive en 203 à Carthage, début du 3e siècle. L'église
oui,
est encore une fois prise entre... Ah oui, vraiment, hein?
Ah, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Ces deux filles-là, c'était quelque chose de très beau.
On est à Carthage, donc c'est dans l'actuelle Tunisie, c'est un peu au nord-ouest de la capitale Tunis. Enfin, ça a été détruit ensuite. L'église est déjà solidement implantée au 3e siècle en Afrique du Nord?
Il y a des chrétiens, mais seulement, il n'y en avait pas beaucoup finalement à cette époque-là. Quand il y avait par exemple des réunions là, dans les stades là, pour faire des fêtes populaires, ben, il y avait quelques chrétiens qui étaient là mais la foule était la païenne.
Ah, d'accord. Et Perpétue et Félicité, donc, qui sont martyrisés en 203 à Carthage, est-ce qu'on sait, est-ce qu'elles sont connues, est-ce qu'on a des documents sur elles, ou c'est que des légendes qui circulent, enfin quand même, elles sont importantes dans le calendrier des saints.
Ce sont les saintes d'origine, les origines chrétiennes les plus connues, finalement.
D'accord.
Parce que Sainte Perpétue était très instruite, hein, c'est une femme instruite. Elle savait, en plus du latin, elle savait le grec, tout ça, là.
Oui.
Alors, c'était une jeune femme, elle avait que 22 ans seulement, mais elle avait fait de très bonnes études. Alors, elle a raconté les premières parties de sa condamnation, puis enfin, quand elle a été prise par des soldats qui l'ont amenée devant un tribunal, puis ça,
oui.
Elle a commencé à raconter l'histoire de sa vie, pratiquement. Et puis, ensuite de ça, bien, après son décès, là, après le martyr, bien, il y en a d'autres qui ont continué. C'est des gens qui étaient avec elle, parce qu'elle n'était pas toute seule. Il y en a plusieurs qui ont été persécutés en même temps. Là.
Oui.
Alors, ces gens-là ont continué l'histoire. Et puis, ensuite de ça, bien, un peu plus tard, ces documents-là ont été complétés aussi par Tertullien, qui était un homme très connu à cette époque-là, puis enfin, qui écrivait beaucoup. Et puis, finalement, bien, c'est Saint-Augustin, qui était du nord de l'Afrique, lui aussi. Parle d'eux autres. Puis alors, les documents les plus importants ont été conservés à l'abbaye de Mont-Cassin. Ensuite, ça, l'abbaye de Saint-Gall en Suisse aussi, puis tout ça. Alors, les documents de cette époque-là, il y en a beaucoup qui sont disparus, mais ceux-là ont été conservés et puis ont été retrouvés d'une façon assez exceptionnelle vers l'an 1650, par exemple, là, pour le 1668, là, pour le codex de Mont-Cassin. Et puis, la version grecque, parce qu'il y a eu une version grecque qui était faite, ça a été retrouvé en 1890. Alors, tous ce sont les martyrs les plus connus, si on veut, de cette époque-là.
Dites-moi une chose, Don, vous nous parlez de ces pages écrites par Sainte Perpétue en captivité. Que racontent ces pages? Elles racontent ses convictions, son enfance, l'atmosphère de l'Église à l'époque, et qu'est-ce qui est dans ces écrits?
Ce qui arrive, c'est qu'elle raconte des visions qu'elle a eues quand elle était en chaud, puis elle raconte un peu sa vie, et puis bien, comme il y a très peu de documents qui ont été écrits par une femme à cette époque-là, parce que les femmes, habituellement, n'avaient pas...
C'est juste.
Pas très instruites. Alors, elle met beaucoup de détails, puis toutes sortes de renseignements. Alors, c'est la sainte la plus connue, et finalement, parmi les origines de l'Église.
Elle avait un enfant, je pense, au moment du martyr,
enfin, non? Quand elle a été martyrisée, elle avait 22 ans.
Oui.
Mais elle était mère déjà d'un enfant. Alors, quand elle a été arrêtée par la police, là, quand ils ont fait une rafle pour prendre les derniers chrétiens, parce que c'est le gouverneur qui a décidé d'éliminer la plupart des chrétiens de cette ville-là.
Mm-hmm.
Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'elle, eh bien, elle était c'est bien connu, tout ça. Mais seulement, elle était prise, puis elle a été amenée à Carthage. Puis là, il y a eu un procès, puis tout ça, avec un groupe de... Il y avait plusieurs chrétiens qui étaient avec elle, des gens qui la connaissaient. Même, elle n'était pas baptisée encore. Elle
ah bon?
Était baptisée en prison.
D'accord. Elle avait, mais elle venait pas d'une famille chrétienne. Le père n'était pas chrétien, je pense.
Ni la mère,
ni la mère, non?
Mais sa mère, oui. Puis la plupart des membres de sa famille étaient chrétiens.
Ah,
mais seulement, son père n'était pas chrétien. Et puis alors, c'était les chrétiens, c'était un petit groupe de gens, là, vous savez, qui passaient un peu pour des gens un peu plus
illuminés
ou moins acceptés
ou...
par la société. Alors, oui. elle faisait partie de ce groupe-là. Et puis, c'est comme ça qu'elle a été attrapée. Là où elle s'est félicitée, c'était la petite esclave qui travaillait pour elle.
Ah, donc c'était la bonne ou la servante ou l'esclave de Perpétue, donc félicité.
Ben oui, c'est ça. Alors finalement, elle aussi est enceinte. Alors, puis elle a eu son enfant dans prison, parce qu'elle a été quelques mois en prison après son procès, avant qu'il y ait eu la condamnation et tout ça.
Alors, c'est pas Perpétue qui avait tout ce courage et qui, elle... Même en allant au martyr, elle encourageait ses compagnons et ses compagnes à garder foi.
C'est elle qui était vraiment... C'était une fille de la noblesse, puis en fait, d'une famille, une grande famille. Et oui. puis alors, elle était très instruite, puis elle parlait le latin, le grec, tout ça, là, déjà.
Oui.
Alors, c'est elle qui était considérée comme la chef de ces nouveaux chrétiens là, qui étaient près de Carthage. Là, puis, alors, c'était un petit groupe de gens là, qui était déjà converti au christianisme. Puis seulement, il faisait bande à part. Il faisait pas partie de la population en général, parce qu'ils étaient à part des autres. Et puis tout ça.
Don Bolduc, on parle de Sainte Perpétue et Sainte Félicité martyrisées en 203 à Carthage. Leur fête est... On est près de la fête. Des témoins du martyr ont dit la chose suivante. Leur visage était rayonnant et d'une grande beauté. Il était marqué non de peur, mais de joie. Tout ça avec des vaches qui vous encornent, vous blessent, vous mutilent. Une foule en délire qui hurle contre vous. Ça dépasse l'entendement.
En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a même un psychiatre très célèbre, Jung, en Suisse, qui a fait une de ses élèves, Marie-Louise von Franz, qui a fait une étude psychologique sur les martyrs. Comment se fait-il que ces gens-là étaient condamnés à la mort, puis amenés à se faire face à des lions, puis tout ça, puis se faire dévorer, puis enfin, mais malgré tout, ils avaient l'air heureux, puis ils avaient l'air l'impression, vous savez, comme des gens qui s'en vont au ciel, puis c'était quelque chose. Au bout, les psychiatres ont analysé ça, puis ont dit c'est vraiment extraordinaire. Parce que comment se fait-il que ces gens-là ne semblent pas être épeurés puis être affolés pour ça? Au contraire, ils étaient visage rayonnant, puis on dirait qu'ils commençaient déjà à avoir la vision de Dieu avant même de mourir.
Ça rappelle un peu, il y a quelques semaines, on parlait de Saint Polycarpe de Smyrne. Il est mort à 85 ans, dans une odeur de... Ça embaumait toute l'arène où il a été déchiqueté, ou je ne sais pas trop quoi, mis en pièces. Toute l'arène sentait bon quand il est mort.
Ah oui.
C'est incroyable, ça.
Au réfectoire, on lit actuellement la vie de Saint Antoine de Padoue. Et il y a des fêtes de ce genre-là qui sont racontées. Aussi. Là, les saints, on dirait qu'à la fin de leur vie, là, avant de s'envoler au ciel, eh bien, on dirait qu'ils passent par une période d'extase, là, puis ils sont tous... tous les gens sont impressionnés, les gens ne comprennent pas ce qui se passe.
Non, il y a évidemment,
un phénomène mystérieux là, qui fait que...
Donc, Bolduc, dites-moi une petite chose. Il y a le récit des visions de Sainte Perpétue, donc elle les a consignées sur parchemin, je veux dire, pendant sa captivité. Oui. Elle raconte quoi? Ces visions célestes? Elle raconte...
raconte que surtout durant son sommeil, elle a eu parfois dans son sommeil ou des choses, qu'elle a eu une vision de Dieu, puis enfin qu'elle a parlé avec des saints, vous savez, qui est allé au ciel, puis enfin, c'est des phénomènes, c'est vraiment extraordinaire. Je vous le dis, c'est vraiment étonnant. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a des textes qui affirment ça, puis qui expliquent ça. Et puis
Il y a même un texte avec une description d'un combat avec un lutteur égyptien.
Ah oui.
Chez Saint-Perseteu. Il y a plein de trucs là-dedans. Dites-moi une chose. On est au 21e siècle, Don Bolduc. On a plus ces manifestations de foi extrême, tragique, assassinés, du moins en Occident. Il y en a eu beaucoup ailleurs, il y en a encore beaucoup ailleurs. Mais est-ce que l'Église catholique, du moins en Occident, regarde cette période pré-constantinienne où le christianisme s'est un peu normalisé, si vous voulez, en devenant religion officielle? Est-ce que l'Église a un genre de nostalgie de cette époque héroïque?
Oui, il y a des gens qui mentionnent ça. À propos justement de Sainte-Perpétue, de Sainte-Félicité, la nostalgie des origines. Parce que les origines de l'Église, c'est tellement merveilleux, puis c'est tellement. Il y avait tellement de sainteté, puis tellement de manifestations de l'Esprit-Saint, que c'était une période absolument extraordinaire. Mm-hmm. Ici, nous autres, dans la province du Québec, on a vu, par exemple, les funérailles du frère André.
Oui.
C'était quelque chose d'extraordinaire.
Gigantesque. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, il y aurait quoi?
J'avais l'impression que le frère André, c'était leur frère.
Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, il y aurait quoi? Deux pelés, trois tendus qui suivraient le cercueil?
Ben oui, c'est...
Il y aurait très, très, beaucoup, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins de monde que lorsque le frère André est mort.
Ben, c'était un événement, puis...
Mais encore une fois, j'essaie de comprendre pourquoi Perpétue et Félicité ont tellement marqué les esprits. Il y en a eu beaucoup de martyrs dont on ne parle pas. Elles ont laissé très peu d'écrits. Il y a la vision des songes de Perpétue. Je veux dire, quel est le caractère là-dedans qui, à vous, ça je vous pose la question à vous, Don Bolduc, de Saint-Benoît-du-Lac, qu'est-ce qui fait que ce témoignage de ces deux femmes, Perpétue et Félicité, est tellement touché, et très vite, parce que les visions de Perpétue qui ont été consignées pendant sa captivité ont connu une diffusion très rapide et très large.
Ah oui. Il y a des auteurs chrétiens des premiers siècles qui ont été bouleversés par ces textes-là. Et puis Saint-Augustin, par exemple, a donné beaucoup de renseignements, puis on en parle beaucoup. Puis, alors, dès les origines de l'Église, là, dès les premiers siècles, on a parlé beaucoup de ces deux saintes-là. Parce qu'il y avait aussi des hommes, aussi. Il y avait des hommes. Il y avait, par exemple, il y avait Saturus, là. C'est lui qui était le catéchiste qui leur a enseigné la religion. Alors, lui, quand il a vu qu'ils étaient pris par la police, puis qu'ils étaient amenés en chaud, alors, il est allé pour les défendre, tout ça. Puis il s'est joint à eux autres. Finalement, il a été martyrisé à son tour. Vous savez, ça a été un mouvement qui. Ensuite, il y avait aussi Revocatus, c'est un esclave, mais qui était le frère de Félicité.
Ah, d'accord.
Alors, puis il y avait Saturninus aussi, lui qui voulait attaquer les bêtes, puis enfin, vous savez, il était pris d'un enthousiasme extraordinaire. Et puis enfin, parce que quand c'était des gens qui étaient amenés dans une arène comme ça, pour se faire dévorer par des bêtes, surtout quand c'était des femmes, bien, on prenait des vaches enragées, comme c'était leur cas, eux autres.
Oui.
Et puis, souvent, on leur interdisait de manger pendant plusieurs heures avant la chose, de façon à ce qu'ils soient enragés et qu'ils aient faim.
Ah oui, qu'elles aient faim, qu'elles en cornent.
Sans ça, il y a des chrétiens qui, à certains moments, qui ont salé la nuit pour nourrir les bêtes juste avant.
Je comprends.
Les bêtes sont arrivées, puis ils se mettaient au pied des martyrs, et puis c'était extraordinaire. Les origines de l'Église, vous savez, quand on étudie ça, on est pris dans l'enthousiasme, l'admiration. Il y a tellement de choses merveilleuses qui sont passées à cette époque-là.
Dont Jacques Bolduc de Saint-Bonnat-du-Lac, vous nous parliez donc de Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité, deux jeunes femmes martyrisées en 203 à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Elles sont fêtées le 7 mars. Merci infiniment. On vous retrouve la semaine prochaine pour Sainte-Louise-Mariac, je pense, non? On en a dit beaucoup. En tout cas, je vous remercie infiniment, Don Bolduc. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Très bien. Vas-y.
Voilà, nous sommes rendus à la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.